Consommer local vous intéresse ? Ce podcast de Sud-Ouest est accompagné par le mouvement hashtag Bordeaux local, une campagne qui met en avant les acteurs économiques girondins, les établissements, les hommes et femmes qui jouent la carte des produits locaux et des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des acteurs locaux doivent se soutenir et participer à une économie plus solidaire, responsable et engagée. C'est pourquoi l'interprofession des vins de Bordeaux, l'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur bordeauxlocal.fr et en partageant le hashtag Bordeaux local.
Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Sud-Ouest. Merci d'être là. Bonne écoute.
Mettons tout le monde tout de suite à l'aise. Le lobby du vin est l'invité des 4 saisons du vin. Le lobby du vin, comme désigné par ses détracteurs, je précise, le lobby du vin. Dans le podcast du vin, notez qu'il y a une certaine logique à cela. Vin et société, la structure qui représente l'ensemble de la filière vitivinicole, producteur, négociant. Vin et société, la structure qui revendique la bannière de 500 000 acteurs, non 480 000 exactement, pour porter haut dans le monde cet emblème national, le vin. Stéphanie Pio, déléguée générale adjointe de Vins et Sociétés, est aujourd'hui l'invitée de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et nous accueillons aujourd'hui Stéphanie Pio. Bonjour Stéphanie Pio.
Bonjour Mathieu, bonjour César.
Déléguée générale adjointe de vin et société. Je précise que Samuel Montgermont en est le président et Christelle Lepresse, la déléguée générale. César, on a invité aujourd'hui Stéphanie Pio pour parler
Je suis très heureux Mathieu, parce qu'il faut partir sur des chiffres réels pour étudier la situation de la viticulture. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une filière puissante qui manie des milliards d'euros. Mais finalement, on est assez pauvre en statistiques fiables sur ce secteur. Et c'est vrai que Stéphanie, au sein de Vins et Sociétés, avec le CNIV, avec France Agrimaire, travaille sur ces sujets-là. Je pense que c'est la plus grande spécialiste française du sujet. Et j'entends, puisqu'évidemment on lit tout ce qui se dit, donc la consommation du vin, elle baisse pas dans les restaurants, qu'est-ce qui se passe dans la grande distribution. Et je voudrais qu'à la sortie de ce podcast, on puisse avoir quelques idées claires sur ce qu'il en est exactement de la consommation de vin en France, où finalement il n'y a pas aujourd'hui consensus sur l'analyse.
Eh bien, ça va être l'objet de cette conversation. Stéphanie Pio, pour commencer, si on devait faire un grand tableau impressionniste de la situation.
Alors la filière vin, c'est tout d'abord 440 000 emplois équivalent temps plein soutenus en France, ce qui veut dire potentiellement encore plus de personnes employées par la filière. C'est aussi 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis c'est une filière qui est peut-être à la croisée des chemins, en tout cas qui fait face à des défis très importants. Le renouvellement des générations chez les viticulteurs, chez les vignerons, l'enjeu de la déconsommation et l'enjeu aussi de la relance à l'export.
Commençons par ça, l'enjeu de la déconsommation, parce que c'est un sujet vraiment d'actualité. On assiste manifestement à une décroissance ou une déconsommation, en tout cas un changement de rapport qu'ont les Français et sans doute un grand nombre de terriens au vin. C'est quoi les derniers chiffres dont vous disposez ?
On a un recul assez long puisque les statistiques au niveau français existent depuis au moins une soixantaine d'années. Et donc, depuis 60 ans, la consommation de vin en France a baissé d'à peu près 70%. Alors, c'est l'ensemble des boissons alcoolisées qui est en baisse, hein, puisque en incluant les spiritueux et les bières, on est en baisse de 60% sur la même période, sur les 60 dernières années.
Et en termes de volume, de bouteilles, de litres bu par an et par personne, pour avoir quelques indicateurs, ça pourrait nous donner quoi? Et si on veut comparer avec les spiritueux et la bière?
Alors, on buvait, donc toujours il y a 60 ans, on buvait 200 litres par an et par adulte de boissons alcoolisées. On en boit aujourd'hui 80. Si on regarde juste le vin, on en buvait donc 120 litres il y a 60 ans. On en boit aujourd'hui à peu près 40, toujours par an et par personne. Donc, on est sur une baisse évidemment très, très significative. Et cette baisse, elle est à la fois elle est structurelle, puisqu'elle est régulière depuis 60 ans. On perd à peu près 1% de consommation par an. Mais elle tend à s'accentuer, puisque depuis peut-être 20 ans, on est plutôt sur une baisse de 2% par an.
C'est dû à une évolution sociologique des consommateurs. J'imagine les personnes âgées consommer davantage, les jeunes consomment moins. Quelle est cette évolution démographique, finalement?
C'est pour ça qu'on parle justement de déconsommation. C'est pour insister sur le fait que ce n'est pas une tendance conjoncturelle liée uniquement à une baisse des achats parce que les gens auraient un pouvoir d'achat plus réduit. C'est vraiment un phénomène structurel lié donc à des évolutions démographiques profondes, lié au fait que nos consommateurs sont souvent âgés. Pour beaucoup, ils ont plus de 50 ans, voire même plus de 65 ans. Et ça a des causes plus profonde sur lequel on peut peut-être revenir un peu plus en détail juste après.
Tout à fait. Il y a ce chiffre aussi, la moitié de la population française ne consommerait pas ou ne consommerait plus du vin. Ça vous semble assez logique ?
Oui, ça va. C'est tout à fait les chiffres dont on dispose avec France Agrimaire. Il y a 40 ans, il y avait à peu près 20% de la population adulte, évidemment, qui n'en consommait pas. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 40%. Donc, il y a toute une partie de la population qui s'est détournée du vin pour différentes raisons et qu'aujourd'hui, on va aller chercher à reconquérir.
C'est quoi les explications sociologiques au-delà du démographique pour cette population qui s'est, comme vous le dites, détournée du vin?
On a travaillé avec des sociologues, on a lu beaucoup d'études pour se pencher sur cette question. Et parmi les principaux moteurs à l'œuvre, ce qu'on voit, c'est d'abord tout ce qui est transformation économique, sociologique, d'activité de la société. À titre d'exemple, les agriculteurs représentaient il y a 60 ans à peu près 15% de la population active. Ils en représentent aujourd'hui moins de 2%. Or, on sait que c'était une catégorie de population, comme les ouvriers, fortement consommatrice de vin. On a eu aussi une urbanisation forte de la population, donc là aussi, en lien avec tout ce qui peut être exode rural, on a eu un fort mouvement de déplacement des populations vers les centres urbains, et ça a un impact sur notre filière et sur la consommation de vin, parce que ce sont des modes de consommation différents, et aussi parce qu'il y a eu sans doute une perte de transmission du produit. Vous vous éloignez des zones rurales, vous vous éloignez des zones de production, donc votre rapport au vin, votre représentation du vin va évoluer aussi et vous allez faire évoluer votre consommation. Donc on a ces grandes transformations de la société. On a aussi à l'échelle des individus une mutation des familles. Ça pour nous c'est un point important à prendre en considération parce que le modèle familial, il évolue dans la société, c'est bien normal, c'est bien naturel. Mais là aussi, ça a un impact sur le vin, puisque avant, on était sur un schéma classique, les parents avec les enfants qui devenaient adultes, à qui on faisait découvrir le vin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales en France. Évidemment, c'est pas une difficulté, mais on voit bien que ça pose des questions pour le vin, puisque si vous êtes un seul adulte à la maison avec un enfant majeur, vous voulez lui faire découvrir le vin, est-ce que vous allez mettre le soir une bouteille 75 centilitres sur la table? Pas forcément, puisque vous savez que vous n'allez pas pouvoir la consommer. Il va vous falloir plusieurs jours pour la boire. Le format est pas forcément adapté et la transmission se fait différemment.
Souligne. Ça veut dire que le format bouteille de 75 centilitres est aujourd'hui peut-être un frein?
Ça fait partie, en tout cas, des questions qu'on se pose et ça fait partie des sujets d'innovation sur lesquels la filière travaille fortement aujourd'hui et sur lesquels c'est important qu'on puisse aller. Évolution du format du produit, évolution du goût aussi du produit pour une partie.
Et est-ce qu'il y a une évolution sur la perception de l'alcool? J'ai l'impression que les populations un peu plus jeunes, finalement, font attention à leur santé. On se détourne un peu de l'alcool d'une manière structurelle.
Oui, ça fait partie des autres moteurs profonds à l'œuvre. Cette évolution des valeurs réelles au sein de la société, toutes les valeurs liées à la santé, au bien-être, ont pris, toutes les études nous le montrent, ont pris une place de plus en plus importante chez tous nos concitoyens. L'alimentation est vue comme l'un des facteurs par lesquels on va soigner sa santé. Donc quand ce que je mange, ce que je bois, ça participe aussi à mon état de santé. Et la place des boissons alcoolisées et la place du vin, évidemment, peut poser question de ce point de vue-là. Même si une consommation modérée ne pose pas de difficultés particulières.
Qu'est-ce que c'est une consommation modérée? J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Verre par jour, deux verres par jour et pas tous les jours, j'ai ça en tête.
Oui, il existe des repères qui sont proposés par Santé publique France, deux verres maximum par jour et pas tous les jours.
Et pardon, juste un prolongement, on parle beaucoup de l'évolution de la bière donc, et que la bière prendrait des parts de marché au vin. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a une illusion là-dessus ou la bière souffrirait comme le vin?
Et je prolonge cette question justement parce que César, j'allais exactement rebondir sur ce point-là. Il y a quand même une question de désirabilité parce que le vin ne provoque manifestement pas du tout le même effet chez les jeunes générations que la bière.
Oui, c'est des questions de représentation du produit. C'est vrai que la bière a une image plus festive, plus jeune que le vin, et ils ont des consommateurs qui sont aussi plus jeunes. Après, il y a un petit effet, on le constate dans des études de déport, effectivement, des parts de marché qui sont prises par la bière. Mais nous, on rappelle souvent que notre premier concurrent, c'est l'eau. Ce sont les sodas. Et en fait, les Français se détournent des boissons alcoolisées dans leur ensemble pour aller vers du sans-alcool. En premier lieu, avant de se détourner vers d'autres boissons alcoolisées. Mais cette question de l'image du vin, on le sait parfaitement à Bordeaux, on le sait avec la nouvelle campagne de communication du CIVB, elle est fondamentale pour l'avenir de notre filière. On a besoin de travailler sur cette désirabilité du vin, sur son image, sur son acceptation auprès des jeunes générations, sur la représentation qu'ils s'en font.
Ce qui veut dire qu'on a raté certains virages ces 10 ou 15 dernières années. Le vin... à une image un petit peu vieillissante, il a raté le coche, il a raté quelque chose.
On a peut-être raté certains virages auprès des jeunes générations. Alors c'est évidemment assez facile de dire ça. C'est un travail qui doit être fait collectivement. Le vin a cette image parce que justement c'est le symbole de la France, parce que c'est les racines de la France, parce que ça a une place au sein du territoire qu'elle n'a aucune autre boisson, ça a aussi une place dans les mentalités qui est un peu plus statutaire, un peu plus totémique. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a pu jouer sur la manière dont les jeunes générations se sont un peu détournées de ce produit.
Alors on a tous nos obsessions, et moi j'en ai une pour prolonger cette réflexion, c'est le prix du vin au restaurant. On parlait justement de dimension totémique, on parlait de dimension symbolique. Quand est-ce que la filière fait quelque chose pour que, justement, lors des moments festifs, lors des moments de détente, lors des moments de plaisir, on puisse accéder à de bons vins, à des prix cohérents au restaurant?
La restauration, c'est un circuit de commercialisation qui est plutôt important pour nous, parce que si on regarde sur le marché France, il y a à peu près 50% des bouteilles qui sont vendues par le biais de la grande distribution, et il y en a à peu près 30% qui sont vendues en CHR, donc café, hôtellerie, restauration. Cette question du prix du vin dans les restaurants, elle est évidemment cruciale, notamment parce que le vin au verre s'est considérablement développé sur les dernières années, que maintenant l'essentiel, peut-être même la totalité des restaurants en propose. Et évidemment, il faut que nos produits puissent rester accessibles au plus grand nombre. Alors si on se compare à d'autres boissons, le vin n'est pas toujours objectivement plus cher, par exemple, qu'une pinte de bière. Donc c'est aussi souvent une représentation qu'on a de ce produit. Après, en restauration, on connaît le coefficient multiplicateur.
Tous les amateurs qui vont boire un verre de vin à 6 ou 7 euros, dont ils connaissent le coefficient multiplicateur, sur table, franchement, généralement, ils n'apprécient pas ce qu'il y a dans le vin.
Il faut que la qualité soit au rendez-vous du prix, ça c'est certain, et la filière y travaille. Elle travaille également pour essayer de nouer davantage de liens avec les représentants de la restauration pour justement travailler sur cette question de l'attractivité du vin, du prix au vin, du vin au verre, mais aussi potentiellement du prix de la bouteille. C'est important, comme vous le dites, de rester dans le raisonnable, de rester dans l'accessible, et on ne peut pas, si on souhaite rester connecté aux jeunes générations, évidemment, aller sur des prix trop importants. Vous l'avez dit, aujourd'hui, de ce qu'on en sait, le prix moyen au verre est autour de 6 euros dans les restaurants, plus cher dans certaines régions, un peu moins dans d'autres. C'est pas forcément le frein principal, mais ça fait partie des sujets sur lesquels travailler.
Et là, on vient d'évoquer la restauration, donc chiffre important, hein, sur 10 bouteilles vendues en France, 5 le sont en grande distribution, 3 dans la restauration, 1 chez les cavistes et 1 à la propriété. Hein, voilà. Et donc, parlons des 50%. Donc, évidemment, la majorité du vin en France est vendu en grande distribution. Donnez-nous quelques éléments de prix. D'ailleurs, je crois qu'on a perdu environ 2 millions d'hectos en 7 ans, hein, c'est ça, de vente globale. Et quels sont les prix moyens de vente des vins dans les grandes surfaces?
Alors là aussi, hein, la grande distribution, elle fait face à ce phénomène de déconsommation du vin. On perd à peu près 3% par an, avec quand même des différences selon les couleurs. On sait évidemment que le rouge est beaucoup plus en baisse que les autres couleurs, et puis selon aussi les régions, les bassins de production. Le prix moyen d'un équivalent 75 centilitres en grande distribution sur les vins tranquilles est aujourd'hui de 4 euros. Alors évidemment, ça recouvre des réalités très diverses, hein, puisque ça recouvre tous les vins entrée de gamme jusqu'aux très grands crus. Donc c'est un prix, évidemment, c'est un prix moyen. Et il faut prendre en compte, bien sûr, le fait que ce prix-là comprend tout le vin vendu en bag-in-box.
Qui représente 40% des ventes totales, hein, j'ai en tête le bag-in-box.
Oui, c'est un format qui s'est beaucoup développé, apprécié des consommateurs, parce qu'on peut le garder plusieurs semaines, on peut le boire progressivement. C'est souvent des vins accessibles. On voit d'ailleurs que les vins IGP, pour certains, ont tendance aussi à se développer. Donc c'est une catégorie qui fonctionne plutôt bien. On note tout de même qu'en grande distribution, la catégorie des vins dits premier prix, entrée de gamme, est quand même celle qui baisse davantage. Donc il y a une valorisation de nos ventes en grande distribution, qui ne vient pas forcément toujours compenser la baisse des volumes. Mais cette valorisation, elle est à l'œuvre et on est sur un mouvement plutôt positif de ce point de vue-là.
Et pourquoi comment vous expliquez la baisse plus particulièrement du vin rouge ? On est concerné évidemment ici à Bordeaux, les vins rouges de tête, c'est 85% des volumes de Gironde. Pourquoi les vins rouges souffrent-ils plus que les autres couleurs ?
C'est une bonne question. En partie, la réponse est sûrement sur l'image que le consommateur se fait du vin rouge. Pour certains, certains nous parlent du goût qu'ont les vins rouges, qui ne sont pas forcément au goût des jeunes générations. C'est pour ça d'ailleurs que la filière travaille à différencier les profils produits pour proposer des rouges plus frais, plus légers, à boire dans d'autres moments de consommation.
Moins tannique.
On a besoin un petit peu de réinventer cette couleur-là, moins tannique aussi. Les rouges, parce qu'ils sont le vin par excellence, parce qu'ils sont le vin traditionnel, ont évidemment souffert un petit peu de cette image vieillissante, mais les choses sont en train de changer aussi. Et pour ce qui concerne les autres couleurs, et le rosé comme le blanc ne sont pas non plus dans une forme olympique. Il faut aussi le remarquer.
Alors que les effervescents, peut-être un peu mieux. Le crémant de Bordeaux, en tous les cas, même si les volumes sont réduits, semble-t-il, les résultats sont plutôt positifs ces dernières années.
Oui, il y a des évolutions en tout cas assez différentes d'un bassin de production à l'autre. On a vu la mode, il y a eu cette mode aussi du Prosecco qui a boosté certaines ventes d'effervescents en grande distribution. Et là aussi, hein, la filière française a certainement des produits à proposer pour pas forcément aller sur les effervescents très entrée de gamme, mais pour proposer aussi une diversité de produits à nos consommateurs.
Et le rouge n'est pas dans le train de l'apéritif, si j'ose dire, de tout le développement des apéros, à déjeuner ou au dîner. Finalement, le rouge n'a pas sa place. C'est peut-être ça aussi un gros problème.
On sait qu'à l'apéritif, les bulles sont plus appréciées, les rosés sont plus appréciés. Nous, on est convaincus en tant que filière que le rouge a potentiellement aussi sa place à l'apéritif. Là aussi, donc encore une fois, peut-être avec des rouges plus légers, plus frais. C'est aussi, au-delà du profil produit, c'est aussi une question, encore une fois, d'image du produit et puis de lieu où vous pouvez en trouver. Il faut qu'on travaille sur le fait de pouvoir trouver du vin dans des lieux de convivialité, par exemple dans des festivals, se rapprocher des lieux où sortent les jeunes pour que le vin soit aussi vu comme une boisson plaisir, une boisson facile à boire et vers laquelle les jeunes générations peuvent se tourner. L'apéritif, c'est évidemment un phénomène en pleine expansion, on abandonne le repas traditionnel, on préfère le snacking, on préfère l'apéritif. Ben nous, on est convaincus que le vin, si on sait faire notre mue en tant que filière, on peut aussi trouver notre place là-dedans.
Stéphanie Piau, le vin rouge, il est aussi souvent perçu par rapport au rosé ou aux bulles comme un vin beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a beaucoup d'AOC, que voilà, ça nécessiterait, je dis bien ça nécessiterait, un plus grand apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un gros boulot à faire sur tout ce corpus en fait, qui accompagne le vin rouge ?
Alors les AOC, les IGP, c'est tous ces terroirs, c'est tout de même la richesse de notre filière, c'est la richesse de nos vins. Donc on a envie de les préserver, on a envie de les valoriser, mais ce qu'on voit, c'est que c'est un concept qui n'est plus vraiment compris par, on va dire, les moins de 40 ans. Ces moins de 40 ans, ils sont très sensibles au local, au fait que la production soit proche de chez eux. Et curieusement, ils ne font pas le lien entre les appellations viticoles et ce côté très local. Donc à nous de faire aussi évoluer notre discours pour leur rappeler que une appellation, c'est quelque chose qui est produit près de chez eux, c'est quelque chose qui est lié au terroir. Et ça, le vin, comparé aux autres boissons, est capable de le faire d'une manière très très forte. Mais il faut qu'on rende ce discours plus lisible. Beaucoup de jeunes nous disent le problème du vin, c'est que c'est trop complexe. Moi, les appellations, ça m'intéresse, mais j'y comprends rien. Donc on a besoin de donner à la fois de la lisibilité, une meilleure compréhension. Et en même temps, c'est évidemment pas un système qu'on va abandonner, parce qu'encore une fois, il fait notre richesse, mais il faut qu'on le rende plus compréhensible. Je l'ai dit tout à l'heure, le vin, c'est une boisson qui a un statut totémique. Donc quand vous êtes un totem, c'est très compliqué en fait de faire évoluer les codes, parce que toute évolution, c'est vu comme presque la transgression d'un tabou. Donc dès que vous touchez au format 75 centilitres, dès que vous touchez au bouchon liège, dès que vous touchez au fait de servir le vin dans le cadre d'un repas, en fait, pour beaucoup de gens, c'est vécu comme quelque chose d'un petit peu transgressif et ils ont des réticences à faire ça. Donc il faut qu'on casse les codes, mais il faut qu'on les casse pas trop. C'est ce que nous disent les jeunes générations et sur l'étiquette, c'est pareil. C'est vrai que l'étiquette avec le château, ça parle pas forcément aux jeunes générations. Ils ont envie d'étiquettes plus modernes, plus colorées, mais ils sont pas non plus demandeurs de choses absolument extravagantes. Donc il faut qu'on réussisse à trouver cet équilibre-là et c'est un défi de tous les jours. Hein.
Ce sont des chantiers énormes que vous abordez. J'ai envie de vous demander, la filière a les moyens de mener tous ces chantiers autour de ce micro. On parle depuis des semaines de crise, de mévente et autres. Là, les chantiers sont énormes. La filière a les moyens finalement de mener ces chantiers ou pas ?
Les chantiers sont énormes. La filière a engagé un travail sur un plan de filière depuis plusieurs mois pour justement à la fois partager ces constats, notamment celui de la déconsommation, notamment celui de la question de la représentation du vin, de sa désirabilité. Et une fois qu'on a fait ce constat, on essaye de se tourner collectivement vers l'avenir en se disant comment est-ce qu'on peut repartir à la conquête de nos consommateurs, donc avec potentiellement de nouveaux profils produits, de nouveaux lieux de consommation, de l'innovation sur le produit. Conquête aussi à l'export et puis évidemment une partie de ce plan de filière c'est aussi le recalibrage du potentiel de production à Bordeaux évidemment on vit pleinement l'arrachage et ses conséquences ça c'est un sujet sur lequel la filière aussi travaille au niveau national comment est-ce qu'on peut réadapter l'offre de vin à la demande des consommateurs. Donc ça veut dire réduire la production dans certains bassins de production, dans d'autres bassins ou avec des appellations en poupe, pas forcément la réduire, trouver cet équilibre. C'est un chantier énorme. Heureusement, on a beaucoup de professionnels très engagés au sein de cette filière qui sont très mobilisés. Ça va nous demander du temps. Il y a une image que j'aime bien, c'est celle du paquebot. La filière, c'est un paquebot, donc elle est lente à faire évoluer. Mais comme on n'est pas le Titanic, on a un grand espoir de ne pas couler.
Il y a des icebergs en face quand même.
Alors, dernière question, même si on l'a très légèrement abordée tout à l'heure, c'est la question de la santé. Et là, je vais me faire ici le porte-parole des, ouvrez les guillemets, des hygiénistes, comme on dit. Et je voudrais parler du dry January. Dry January, le janvier sobre, le mois sans alcool. On a senti la filière assez réticente, et peut-être que vous me démentirez. Et ça me faisait songer en fait à la réflexion de Jean Saric, spécialiste du foie, qui est un grand médecin bordelais, qui est aussi viticulteur, alors qui récemment n'a pas du tout pris la parole, mais en tout cas qui depuis longtemps défend l'idée du bien vivre, et il défend aussi l'idée, comme il l'appelle, du congé hépatique, c'est-à-dire une forme d'abstinence pendant un temps, histoire de se requinquer et de s'assurer que le corps est toujours là. Pourquoi finalement vin et société n'accompagneraient pas ces changements de conso, ces changements sociologiques, ces changements d'aspiration? Parce que on peut être un buveur, un amateur de vin et puis faire des pauses.
Alors évidemment qu'on peut faire des pauses, et nous, le premier message qu'on passe, c'est que chacun est libre de sa propre consommation d'alcool, de faire des pauses, de s'arrêter un mois, de ne pas s'arrêter un mois. Le message qu'on défend, c'est il est tout de même préférable d'éviter de faire un mois d'abstinence et ensuite 11 mois d'excès. Il vaut mieux faire pratiquer la modération toute l'année. Si la filière a manifesté son opposition au Dry January, c'est surtout une opposition à une institutionnalisation du Dry January. C'est-à-dire que là où les Français, évidemment, doivent eux-mêmes trouver leur modèle de consommation dans le respect des repères de consommation, par contre, on est convaincu que ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics de financer des initiatives qui appellent à l'abstinence plutôt qu'à la modération. Si vous vous dites, pour faire une comparaison, on sait bien que les régimes express que vous faites, ça marche jamais. Si vous vous arrêtez de manger du sucre pendant 3 semaines, mais qu'ensuite vous achetez toutes les confiseries autour de vous, vous n'allez avoir aucun gain en termes de santé. Ben, on pense que pour le vin, évidemment, c'est pareil. Il n'y a aucun gouvernement, aucun pays au monde qui finance des opérations comme le Dry January. Pourquoi est-ce que la France, pays du vin, devrait être le premier pays au monde où l'État financerait ces dispositifs d'incitation à l'abstinence? Nous, on est convaincus que ce n'est pas la voie que doivent emprunter les pouvoirs publics et ce n'est pas la bonne voie pour notre filière. Après, encore une fois, du point de vue des consommateurs, liberté absolue.
Liberté absolue, c'est dit. Merci Stéphanie Piau, Vin et Société. Merci César.
Merci.
Merci à vous.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci aussi à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.